Chapitre 2. Le lancement du parangon. La marée serait haute juste après l'aube. Aussi les derniers préparatifs furent-ils achevés dans l'affolement à la lumière des lanternes. Toute la nuit, Brashen arpenta le chantier en jurant. On avait couché le parangon, on l'avait poussé vers l'eau aussi loin que possible sans fatiguer le bois. Avec des vérins et des étais placés à l'intérieur de la coque, on avait redressé et remis presque d'aplomb le navire gémissant. On avait procédé à un calfatage préliminaire, mais incomplet. Brashen voulait que le bordé soit libre de jouer quand l'eau soulèverait la coque. Un navire doit être assez souple pour résister au martèlement des vagues. Il fallait laisser à Parangon toute latitude afin que l'eau et la coque s'acceptent mutuellement. La quille était découverte sur sa longueur. Brashen l'avait fait résonner avec un marteau. Elle semblait solide. Elle devait l'être. Elle était en bois sorcier gris-argent, dur comme la pierre. Toutefois, Brashen se méfiait de tout ce qui devait être. L'expérience lui avait appris que c'était précisément ces choses-là qui allaient de travers. Il nourrissait mille inquiétudes pour la mise à flot du navire. Il tenait pour acquis que Parangon allait faire haut comme une passoire jusqu'à ce que son bordé ait gonflé. Les vieux bordages et vègres, restés tant d'années dans la même position, pouvaient se déjeter ou se fendre en absorbant toutes les tensions de la remise à flot. Il pouvait arriver n'importe quoi. Si seulement il avait disposé d'un plus large budget qui lui aurait permis d'embaucher des maîtres charpentiers de navires et des ouvriers qualifiés afin de surveiller cette phase du renflouage. Les choses étant ce qu'elles étaient, il utilisait les compétences qu'il avait acquises à la longue par expérience et beaucoup par ouï-dire, et le labeur des hommes qui d'ordinaire à cette heure cuvaient leur vin, ce qui n'était guère rassurant. Mais son inquiétude culminait surtout, comme la crête d'une lame, devant l'attitude de Parangon, qui ne s'était guère améliorée durant la période de travail. Le navire leur parlait à présent, mais son humeur était très lunatique. Malheureusement, la gamme de ses émotions semblait se limiter au plus sombre. Il était furieux ou maussade, gémissait pitoyablement ou fulminait comme un insensé. Entre les deux, il sombrait dans une mélancolie complaisante. Brashen regrettait que le navire ne fût pas un gamin qu'il aurait pu simplement secouer tout de bon. Il se doutait que Parangon n'avait jamais vraiment appris la discipline et la maîtrise de soi, ce qui, comme il l'expliqua à Ambre et Althea, était la source de tous ses problèmes. Pas de discipline. Il faudrait que cela vienne d'eux jusqu'à ce que Parangon apprenne à se diriger seul. Mais comment former le caractère d'un navire? Ils avaient tous trois débattu la question autour de chopes de bière quelques nuits avant la marée de vive eau. Il faisait lourd ce soir-là. Ils étaient assis sur des morceaux de bois de flottage, sur la plage. Depuis la ville, Cliff avait traîné pour eux un fût de bière qui, quoique de mauvaise qualité, restait trop cher pour leur bourse. Mais la journée avait été exceptionnellement chaude et longue, et Parangon particulièrement difficile. Ils s'étaient réunis à l'ombre de sa proue. Il était revenu ce jour-là à son attitude la plus infantile, qui incluait injures et bombardements de sable. Couché sur la plage, il disposait d'une réserve quasi illimitée de munitions. Brashen sentait son cuir chevelu le démanger à cause du sable dans ses cheveux collés de sueur et sur sa nuque. Les cris et les menaces n'avaient aucune prise sur le navire. Brashen avait fini par s'accroupir et accomplir sa besogne sans réagir aux pluies de sable jetées par Parangon. Althea avait haussé une épaule. Brashen distinguait les grains noirs et irritants à la naissance de ses cheveux. « Que peut-on y faire? Il est un peu grand pour une fessée. On ne peut pas l'envoyer au lit, encore moins le priver de dîner. Je ne crois pas qu'il y ait moyen de le punir. Il va falloir recourir à la subornation. » Ambre reposa sa chope.
« Vous parlez de punition? La question, c'est la discipline. »
Althea resta un moment songeuse. « Ce sont peut-être deux choses différentes, mais j'ignore comment on peut les séparer. »«
Je suis prêt à essayer n'importe quoi pour qu'ils se conduisent correctement.
Vous imaginez un peu les difficultés qu'on va rencontrer en naviguant avec lui tel qu'il est? Si nous ne le rendons pas plus accommodant, nous aurons fait tout ce travail pour rien. »
Brashen exprima ce qu'il redoutait le plus.
« Il pourrait se retourner contre nous. Dans une tempête ou un affrontement avec les pirates, il pourrait nous tuer tous. »
Plus bas, il se força à ajouter.
« Il l'a déjà fait. Nous savons qu'il en est capable. »
C'était un sujet qu'il n'avait jamais abordé ouvertement.
« Bizarre, » songea Brashen.
Ils étaient tous les jours aux prises avec la folie de Parangon. Ils avaient souvent discuté nombre de ces aspects, mais ne l'avaient jamais envisagé dans son ensemble. Encore maintenant, ce fut le silence qui accueillit ces paroles.
« Que veut-il ? »
demanda Ambre.
« La discipline doit venir de lui-même. Il faut qu'il ait envie de se montrer coopératif, et ce désir ne peut procéder que de ce qu'il veut. » Dans l'idéal, il est à espérer qu'il veuille quelque chose que nous pouvons lui procurer ou lui refuser, selon la façon dont il se conduira.
Brashen eut un sourire désabusé. Ce sera presque aussi dur pour vous que ça l'est pour lui.
Je sais que vous ne supportez pas de le voir malheureux. Il a beau se conduire d'une manière inqualifiable, vous allez toujours le rejoindre le soir pour lui parler, lui raconter des histoires ou lui jouer de la musique.
Ambre baissa la tête d'un air coupable en tripotant les doigts de ses épais gants de travail.
« Je ressens sa souffrance, »
avoua-t-elle.
« Il en a vu de toutes les couleurs. On ne lui a pas souvent laissé le choix. Il est si désorienté. Il a peur d'espérer, car quand il s'y est risqué par le passé, on l'a privé de toute joie. Alors il a décidé de croire d'emblée que tout le monde est contre lui. Il blesse avant d'être blessé. Il s'est muré en lui-même et ce ne sera pas facile de percer une brèche.
Alors, que pouvons-nous faire ?
Ambre serra les paupières comme si elle avait mal. Puis elle déclara en rouvrant les yeux :
Nous devons agir avec dureté, en espérant que ce sera la bonne méthode.
Elle s'était levée. Elle longea jusqu'à l'étrave le navire affalé. Sa voix claire porta jusqu'à eux quand elle s'adressa à la figure de proue.
« Parangon, tu t'es mal conduit aujourd'hui. C'est pourquoi je ne viendrai pas te raconter d'histoire ce soir. Je regrette qu'il en soit ainsi. Si tu te conduis bien demain, je viendrai te voir demain soir. »
Le silence de Parangon fut bref.
« Je m'en moque. De toute façon, tu racontes des histoires idiotes et assommantes. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai envie de les écouter ? Ne viens plus jamais me voir. Laisse-moi tranquille. Je m'en moque. Je m'en suis toujours moqué. »
« Ça me désole ce que tu dis là. »
« Je m'en moque, espèce de garce. Tu m'entends, je m'en moque. Je vous déteste tous. »
Ambre revint lentement vers eux, le pas lourd. Sans un mot, elle reprit sa place sur la bûche.
« Hum, ça s'est bien passé ?»
fit observer Althea d'un ton sec.
« Il est clair que sa conduite va s'améliorer en un rien de temps. »
Ces paroles revinrent hanter Brashen alors qu'il entamait un nouveau circuit du chantier. Tout était prêt, paré partout. On ne pouvait rien faire de plus tant que la marée n'était pas montée. Le lourd contrepoids fixé au moignon du mât empêcherait que le navire ne se redresse trop vite. Brashen dirigea son regard vers la gabarre mouillée au large. Il y avait posté un bon matelot, l'un des rares de son nouvel équipage en qui il ait confiance. Haf guetterait les signaux de flamme de Brashen et surveillerait l'équipe au cabestan qui mettrait le parangon à l'eau. À bord du navire, il y avait d'autres hommes prêts à actionner les pompes de cale. Ils craignaient surtout pour le bord de Parangon resté en contact avec le sable abrasif et les insectes de la plage durant toutes ces années. Il avait fait ce qu'il avait pu à l'intérieur de la coque. Il avait prévu de déployer de la toile lestée le long de ce bord dès que le navire serait à l'eau et redressé. Si, comme il le prévoyait, l'eau s'engouffrait dans les interstices entre les bordages, la toile serait plaquée contre la coque et ralentirait au moins la voie d'eau. Il faudrait peut-être amortir à nouveau le navire avec ce bord de boue pour recalfater soigneusement le bordé. Il espérait bien qu'on n'en viendrait pas là, mais il était résigné à faire ce qu'il fallait pour que le navire tînt la mer. Il entendit derrière lui un pas léger sur le sable. Il se retourna pour découvrir Althea qui clignait les yeux vers la gabarre. Elle hocha la tête en apercevant l'homme en faction. Brachen sursauta quand elle lui tapota l'épaule.
« Ne vous inquiétez pas tant, Brash, tout va s'arranger. »«
Ou le contraire !»
marmonna-t-il d'un ton acerbe. Le geste rassurant, le diminutif affectueux, le surprirent. Ces derniers temps, il lui semblait qu'ils avaient retrouvé la familiarité naturelle des compagnons de bord. Du moins, le regardait-elle en face quand elle s'adressait à lui, ce qui avait amélioré les conditions de travail. Tout comme lui, elle avait dû se rendre compte que ce voyage exigerait leur coopération. Ce n'était pas plus que cela. Il noya résolument la brève étincelle d'espoir qui s'était allumée en lui. Il maintint la conversation sur le navire.
« Où voulez-vous être quand ce sera le moment ? »
demanda-t-il. Il avait été convenu qu'Ambre resterait auprès de Parangon pour lui parler durant l'opération. C'était elle qui se montrait la plus patiente avec lui.
« Où voulez-vous que je sois ? »
s'enquit humblement Althea. Il hésita, se mordit la langue.
« J'aimerais que vous vous teniez sous le pont. Vous savez évaluer les problèmes et les prévenir avant qu'ils se transforment en désastre. Je sais que vous préféreriez assister d'ici à l'opération, mais j'aimerais avoir quelqu'un de confiance en bas. Les hommes que j'ai postés aux pompes ont du muscle et de la résistance, mais ils ne sont pas expérimentés ni très lestes d'esprit. J'ai quelques matelots en bas avec des maillets et de l'étoupe. Vous les dirigerez comme vous le jugerez bon quand le navire commencera à prendre l'eau. Ils ont l'air de connaître leur affaire, mais surveillez-les et faites-les travailler. J'aimerais que vous vous baladiez, que vous regardiez, que vous écoutiez et que vous me fassiez savoir comment ça se passe.
« Je suis là »,
assura-t-elle à mi-voix. Elle se tourna pour s'en aller.
« Althea !»
s'entendit-il l'appeler. Elle fit volte-face.
« Il y a autre chose ?»
Il se creusa la cervelle pour trouver quelque chose d'intelligent à dire. Il brûlait de lui demander si elle avait changé d'avis à son sujet.
« Bonne chance, »
dit-il gauchement.
« Bonne chance à nous tous, »
répondit-elle avec gravité et elle s'en alla.
Une vague courut sur le sable. L'écume blanche lécha la coque. Brachen respira à fond.
« Voilà. » Les prochaines heures seraient décisives.
« Tout le monde à son poste !»
aboya-t-il. Il se tordit le cou et leva les yeux vers le sommet des falaises qui surplombaient la plage. Cliff hocha la tête, indiquant qu'il tenait prêtes les deux flammes.
« Fais leur signe qu'ils commencent à raidir l'ossière, mais pas trop !»
Sur la barge, les hommes près du cabestan se mirent à la tâche. Quelqu'un entonna un chant à aller sur un rythme lent. Les voix graves parvinrent aux oreilles de Brachen. Malgré tous ses doutes, il laissa échapper un sourire sardonique et respira profondément.
« De retour en mer avec nous, Parangon. Allons-y !»
Chaque nouvelle vague qui déferlait se rapprochait de lui. Il en distinguait le bruit. Il pouvait même en humer l'odeur. Il l'avait poussé, l'avait lesté, et à présent, ils allaient laisser les vagues l'engloutir. Oh, il savait bien ce qu'il disait, qu'ils allaient le remettre à flot. Mais il ne les croyait pas. L'heure était venue enfin de son châtiment. Il le lesterait, le tirerait sous l'eau, et puis il le laisserait là, à la merci des serpents. Après tout, il ne l'avait pas volé. L'élu de chance avait attendu longtemps, mais aujourd'hui, ils allaient enfin exercer leur vengeance. Ils enverraient sa carcasse par le fond, tout comme lui avait noyé les membres de leur famille.
« Toi aussi, tu vas mourir !»
dit-il avec satisfaction. Ambre était perché comme un oiseau de mer sur la lisse de guingois. Elle n'avait cessé de lui répéter qu'elle resterait avec lui durant toute la manœuvre, qu'elle ne le quitterait pas, que tout allait bien se passer. Elle allait voir. Quand l'eau s'engouffrerait et la renverserait aussi, elle verrait bien à quel point elle s'était trompée.
« Qu'est-ce que tu as dit, Parangon ?»
demanda-t-elle poliment.
« Rien !»
Il se croisa les bras sur la poitrine et les serra fort. Il sentait l'eau baigner toute sa coque. Sous lui, les vagues affouillaient le sable comme de petits insectes qui creusent une galerie. Les doigts rapaces de l'océan avançaient peu à peu sous sa coque. Chaque lame qui le frôlait s'enfonçait un peu plus profond. Il sentit l'ossière de son mât jusqu'à la gabarre se raidir. Brashen cria quelque chose et la tension se stabilisa sans s'accroître. Le chant de travail se tut. À l'intérieur, Althea lança d'une voix forte
« Jusqu'ici, ça va !»
L'eau s'insinuait sous lui. Il frissonna soudain. La prochaine vague, peut-être, allait le soulever. Non, elle déferla, reflua, et il était toujours sur le sable. La prochaine, alors ? Non. Eh bien alors, la suivante ? Les lames déferlaient, l'une après l'autre, et refluaient. Il était au supplice, rempli d'impatience et d'effroi. Il avait beau s'y attendre, quand il se sentit soulevé, oh, à peine, quand il sentit sa coque raguer sur le sable alors qu'il flottait durant une fraction de seconde, il poussa une exclamation de surprise. Il sentit Ambre qui resserrait son étreinte d'un mouvement convulsif.
« Parangon, ça va ? »
cria-t-elle angoissée. Brusquement, il n'eut que faire de ses craintes.
« Accroche-toi ! »
s'écria-t-il en jubilant.
« On y va ! »
Mais l'une après l'autre, les vagues l'effleuraient et Brashen ne faisait rien. Parangon sentait le sable se creuser sous lui, rongé par la mer et aussi un énorme rocher que la régression du sable avait dénudé.
« Brashen ! »
s'écria-t-il irrité.
« Vas-y donc, mon vieux, je suis prêt. Raidis-moi cette haussière. Allez, vous autres, du nerf !»
Il entendit un fracas d'éclaboussement. Brashen le rejoignit au pas de course dans les vagues qui devaient lui lécher les cuisses à présent.
« Pas encore, Parangon. Ce n'est pas encore assez profond. »
« Crève, si ce n'est pas profond. Tu crois que je suis assez bête pour ne pas savoir quand je flotte ? Je me sens soulevé par chaque vague, et il y a un fichu rocher sous moi. Si tu ne me fais pas glisser sur le sable maintenant, je vais cogner dessus bientôt. »
« Du calme alors, ne t'énerve pas, je te crois sur parole. Cliff, fais leur signe qu'ils virent au cabestan. Doucement, tout doux. »«
Rien à foutre. Dis-leur de mettre du nerf et lest !»
Parangon donna un contre-ordre à Cliff.
« Tu entends, Cliff ? »
brailla-t-il alors que personne ne réagissait.
« Crénon, il ferait mieux de l'écouter, lui !»
pensa-t-il furieux. Il en avait assez d'être traité comme un gamin. L'haussière sur son mât se raidit avec une brusquerie qui le fit grogner.
« À virer au cabestan !»
cria Brashen, et les hommes poussèrent de toutes leurs forces les barres d'anspect. Ils hissèrent le navire en le balançant, mais ce n'était pas suffisant. Une fois que Parangon avait commencé de bouger, il était censé basculer en avant sur un rouleau coincé sous sa coque. On aurait mieux fait de le retirer de là. Maintenant, le rouleau allait faire office de cale.
« À virer !»
ordonna Brashen alors qu'une vague était à sa crête. Soudain, il buta contre le rouleau.
« Raidissez !»
Parangon sentit Brashen qui grimpait à quatre pattes à bord. Brusquement, il se mit à avancer, à glisser sur la plage, à s'enfoncer plus profondément dans l'eau. C'était froid, terriblement froid, après toutes ces années passées à se prélasser au soleil. Et il hoqueta, saisi.
Comme ça, ça va aller. Doucement. Ils vont te redresser dès que l'eau sera assez profonde. Accroche-toi, ça va aller.
De l'intérieur, Parangon entendit Althea hurler.
On fait de l'eau, mais je crois que ça va. Toi, à la pompe. N'attends pas qu'elle se remplisse. Vas-y.
Il sentit le martèlement des maillets à l'intérieur, tandis qu'on bourrait d'étoupe une couture qui s'était ouverte. Althea haussait la voix. Les hommes n'allaient pas assez vite à son gré. Il glissait, glissait sur le bord, le long de la grève, en eau toujours plus profonde. Maintenant, il était ballotté par chaque vague qui le heurtait. Sa structure, comme son instinct, tendait à le redresser, mais ce fichu contrepoids sur son mât le retenait.
« Détachez le poids! Laissez-moi me redresser !»
brailla-t-il furieux.
« Pas encore, mon gars, pas encore. Attends un peu. J'ai ancré une bouée, et dès qu'on l'aura passée, je saurai que ta quille est dégagée. Comme ça, maintenant, comme ça !»«
Laisse-moi me mettre debout !»
hurla Parangon, et cette fois il ne put étouffer une note d'effroi dans sa voix.
« Bientôt, fais-moi confiance, mon gars, encore un peu !»
Durant ces années d'échouage, il s'était presque habitué à sa cécité. Être couché, immobile, sans rien voir, c'était une chose. Mais c'en était une autre de se mouvoir soudain dans le sein de la mer imprévisible, sans avoir la moindre notion de l'endroit où il se trouvait, ni de ce qui était près de lui. Un morceau de bois flotté pouvait le heurter, un rocher pouvait déchirer sa coque, et il n'aurait aucun moyen de le savoir avant. Pourquoi ne le laissait-on pas se redresser ?
Très bien, tiens bon là !
Commanda soudain Brashen. Le câble qui retenait le contrepoids fut relâché. Lentement, le navire commença à se redresser, puis, tout à coup, la vague suivante le fit sauter comme un bouchon et le remit d'aplomb. Ambre glapit de surprise sans lâcher prise. L'eau glacée déferla sur les deux bords. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, il se tenait haut et droit. Il écarta brutalement les bras et poussa un rugissement de triomphe. Il entendit Ambre qui lui faisait écho dans un éclat de rire sauvage, tandis que, à l'intérieur, Althea criait, affolée.
« Pompez, corbleu ! Brashen, envoyez la toile dès que vous pouvez !»
Parangon entendait le tambourinement des pieds et les cris frénétiques, mais il n'en avait cure. Il n'allait pas sombrer. Il le sentait. Il étira les bras, le dos et les épaules. Porté par la mer, il élargit sa conscience à tout son corps. Il pouvait presque deviner comment devaient se comporter Bordage et Vègre. Il respira profondément et se força à se recentrer. Brusquement, il prit de l'agite à tribord. Ambre poussa un cri de surprise et Brashen un rugissement furieux. Parangon se plaqua les mains sur les tempes et serra. C'était toujours la même histoire. Quelque chose clochait à l'intérieur de lui. Ses pièces n'étaient pas solidaires. Il bougea à nouveau, ignorant les gémissements et les grincements de son bois tandis que les planches jouaient l'une contre l'autre. Lentement, il commença à se stabiliser. Il était vaguement conscient du travail acharné qui s'accomplissait à l'intérieur. Les hommes actionnaient les pompes, s'efforçant de contenir l'eau qui ruisselait de ses coutures éclatées. Il perçut soudain la pression de la toile contre son vaigrage. Althea hurlait aux hommes.
« Lest, lest, bourrez-moi cette étoupe !»
Il sentait son bois qui commençait à gonfler. Brutalement, il heurta quelque chose et Brashen vociféra.
« jette l'ossière, plus vite que ça, abruti !»
Il chercha à tâtons l'obstacle. La voix rassurante d'Ambre lui parvint aux oreilles. « C'est la barge, Parangon. On a accosté la barge et on t'amarre à couple. Tu seras en sûreté, là. » Parangon n'en était pas si sûr. Il faisait toujours de l'eau et il s'enfonçait.
« C'est profond ici ? »
demanda-t-il craintivement. La voix jubilante de Brashen résonna comme s'il se tenait à côté d'Ambre.
« Assez profond pour te mettre à flot, mais pas suffisamment pour que si tu enfonces, on te perde. Non, qu'on te laissera enfoncer. Pour le moment, ne t'en fais pas, tout va bien. »
La vitesse à laquelle il fila semblait démentir ses paroles. Durant un moment, Parangon tendit l'oreille. À l'intérieur, des voix et des pas précipités, une course sur son pont. Sur la gabarre, l'équipe du chantier se félicitait de son travail et s'interrogeait sur les réparations qui seraient nécessaires. Cependant, ce n'était pas ce qu'il entendait. Il écoutait le clapotis des vagues contre sa coque, le grincement de son bois qui s'ajustait, jusqu'au ragage de sa carène contre les défenses de la barge. tout était à la fois singulièrement familier et inconnu. Les odeurs étaient plus âpres ici, les cris des oiseaux de mer plus vifs. Ils montaient et descendaient avec les vagues. Le doux ballottement était réconfortant, mais il constituait aussi la matière de ses cauchemars.
« Eh bien, » dit-il à mi-voix, « je suis remis à flot. J'imagine que cela fait de moi un navire et non plus une épave. »«
J'imagine, » approuva Ambre tranquillement. Elle était restée si immobile, si silencieuse qu'il l'avait presque oubliée. À la différence de tous les autres, elle devenait parfois imperceptible à ses sens. Il savait, sans même faire d'effort, où se trouvaient Brachon et Althea. Il lui suffisait d'un instant de réflexion pour localiser n'importe quel ouvrier anonyme sur son pont ou dans ses cales. Mais Ambre était différente. Elle semblait plus réservée, plus solitaire que tous les êtres humains qu'il avait connus. Parfois, il soupçonnait que sa retenue était délibérée. Elle ne s'ouvrait que lorsqu'elle le voulait vraiment, et encore, jusqu'à une certaine limite. « Un peu comme moi, » songea-t-il, et il se rembrunit à cette idée.
« Ça ne va pas ? »
demanda-t-elle précipitamment.
« Si, pour le moment, »
répondit-il d'une voix revêche. Elle eut un rire léger, comme s'il avait plaisanté.
« Bon, alors tu es content d'être redevenu un navire ?»«
Content ou pas, ça ne change pas grand-chose. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. » Et ce que je ressens, on s'en moquera pas mal. »
Il marqua une pause.
« Je l'avoue, je ne vous croyais pas. Je ne pensais pas que je serais remis à flot.
Non, que j'ai eu particulièrement envie d'être remis à flot. »
« Parangon, ce que tu penses, ça compte pour nous. N'importe comment, je n'imagine pas que tu aies vraiment voulu rester sur cette plage pour toujours. » Tu m'as dit une fois, quand tu étais plutôt en colère, que tu étais un navire et qu'un navire était fait pour naviguer. Je suppose que même si tu n'es pas ravi au début, ce sera bon pour toi. Tous les êtres vivants ont besoin de grandir. Tu ne grandissais pas abandonné là-bas sur la plage. Tu étais prêt à renoncer, à te croire un bon à rien. »
Sa voix était affectueuse. Tout à coup, c'en fut trop pour lui.
Il pensait vraiment qu'on pouvait le contraindre tout en prétendant que c'était pour son bien.
Il rit âprement.
Au contraire, je savais que j'avais réussi. Je les ai tous tués, tous ceux qui ont essayé de me contrer. C'est vous qui ne voulez pas voir que j'ai réussi. Sinon, vous auriez le bon sens de me redouter.
Un instant de silence horrifié suivit ses paroles. Il la sentit lâcher la lisse et se redresser.
« Parangon, quand tu parles ainsi, je refuse de t'écouter. »
Sa voix ne trahissait rien de ce qu'elle pensait.
« Oh, je vois! Alors tu as peur !»
ricana-t-il méchamment. Mais elle avait fait demi-tour et s'en allait d'un pas ferme, sans répondre.
Il s'en moquait. Ainsi, il l'avait blessé. Et alors, personne ne se souciait de ce qu'il éprouvait, lui. Personne ne lui avait jamais demandé son avis à lui.
Pourquoi t'es comme ça ?
Et il avait deviné que Cliff était là. Le garçon avait rejoint la Gaba avec l'équipe de la plage. Parangon ne sursauta pas. Il resta même un moment sans répondre.
« Pourquoi t'es comme ça ?»
insista le gamin.
« Comme quoi ?»
finit par questionner Parangon, irrité.
« Tu sais bien, toujours fou, toujours la bagarre, à dire des trucs pour être méchant. »«
Comment tu voudrais que je sois ?»
rétorqua Parangon.
« Heureux qu'ils m'aient traîné jusqu'ici, tout content de partir avec eux pour cette mission insensée de sauvetage. »
Il sentit le garçon hausser les épaules.
« Tu pourrais ?»«
Je pourrais !»
fit Parangon avec dédain.
« J'aimerais bien savoir comment. »«
Fastoche, t'as qu'à décider que tu veux. »
Tu décides d'être heureux? Je devrais simplement oublier comme ça tout ce qu'on m'a fait et être heureux? Tralala, comme ça.
Tu pourrais.
Il entendit le gamin se gratter le crâne.
Tiens, moi, j'aurais pu tous les détester. J'ai décidé d'être heureux, décidé de prendre ce que je pouvais, faire une vie.
Pause.
C'est pas comme si j'allais en avoir une autre de vie. Faut que celle-là, elle marche.
Ce n'est pas si simple,
coupa sèchement Parangon.
Ça se pourrait,
insista Cliff.
C'est pas plus dur que de décider d'être toujours fou.
Le garçon s'en fut d'un pas nonchalant. Ses pieds nus frottaient légers sur le pont.
« Mais c'est bien plus drôle »
cria-t-il par-dessus son épaule. L'eau ruisselait le long du vaigrage. La toile était plaquée contre les planches et le flux diminuait. Rapides et efficaces, les calfats travaillaient avec plus d'habileté qu'Althea ne s'y était attendue. Les hommes aux pompes la préoccupaient. Ils fatiguaient. Elle était allée chercher Brashen pour lui demander s'il disposait d'une équipe de remplacement. Elle se heurta à lui qui descendait une échelle suivie de plusieurs hommes robustes de la gabarre. Avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche, il les désigna de la tête. « L'équipe de la plage est sur la barge maintenant. Ils vont relayer vos hommes aux pompes. On tient le coup ?»«
On se maintient et on a même un peu d'avance. Le bois gonfle vite, mais c'est normal pour du bois sorcier. » S'il s'agissait d'une autre vive nef, je dirais qu'elle pourrait s'appliquer un peu et aveugler toute seule la moitié des voies d'eau. Mais avec Parangon, je n'ose même pas le lui demander. »
Elle s'interrompit, attendit que l'équipe des pompes soit hors de portée d'oreille, puis ajouta très doucement
« De peur qu'il ne fasse exactement le contraire. Comment va-t-il »
Brashen se gratta la barbe pensivement.
« Je ne sais pas. » Quand on l'a sorti de la plage, il hurlait des ordres, comme s'il avait hâte d'être remis à flot. Mais comme vous, je n'ose présumer que c'est le cas. Parfois, il suffit de supposer qu'il est de bonne humeur pour qu'il devienne odieux.
Je vois ce que vous voulez dire.
Elle croisa son regard compatissante.
Brashen, dans quoi nous sommes-nous engagés cette fois? Tant qu'il était sur la plage et qu'il était notre seul espoir, ça paraissait faisable. Mais maintenant qu'on est là... Vous vous rendez compte que nous sommes entièrement à sa merci? Il tient notre vie dans ses mains.
Le marin parut soudain très las. Ses épaules s'affaissèrent sous le découragement. Il inspira profondément.
Ne commencez pas à douter de lui maintenant, Althea. Sinon nous sommes perdus. Ne lui montrez aucun signe de doute ni de crainte.
Parangon est davantage un enfant qu'un homme.
Quand je donne un ordre à Cliff, je ne regarde pas s'il obéit. Je ne le laisse jamais croire qu'il a plus de pouvoir sur moi que je n'en ai sur lui. Les garçons ne savent pas comment réagir à ça. Ils ont besoin de limites. Ils ne se sentent en sécurité que quand ils les ont trouvées. »
Elle esquissa un sourire.
« Vous parlez d'expérience ?»
Le sourire qu'il lui rendit était pâle. « Le temps que je trouve des limites, j'étais déjà tombé dans le précipice. Je ne laisserai pas Parangon aller jusque-là. »
Il garda un instant le silence, et elle crut qu'il allait en dire davantage, mais il haussa les épaules, fit demi-tour, et se hâta d'aller rejoindre les hommes des pompes. Ce qui lui rappela qu'elle avait du pain sur la planche, elle aussi. Elle parcourut rapidement le navire, vérifia le travail des calfats. Il renforçait et complétait surtout la besogne effectuée quand Parangon était au sec. Par endroits, il retirait même les toupes pour permettre aux bordées de s'ajuster. Comme la plupart des navires du désert des pluies, le Parangon avait été soigneusement construit, son bordage conçu pour résister aux eaux tourmentées du fleuve des pluies autant qu'aux caprices des lames de l'océan. Il avait même supporté une négligence de 30 ans. Les bordées de bois sorcier gris paraissaient se rappeler comment ils avaient été assemblés. Peut-être, se risqua-t-elle à espérer, Parangon était-il en train de coopérer après tout? Une vive nef pouvait faire beaucoup pour s'entretenir elle-même si elle s'y décidait. Il lui paraissait bien étrange de se déplacer sur le navire. C'était la première fois depuis toutes ces années que les ponts du Parangon étaient horizontaux sous ses pieds. Satisfaite de constater que son équipe était bien occupée,
elle fit un tour rapide.
La coquerie était dans un état lamentable. Le fourneau, dont le tuyau s'était déboîté, glissait dans la petite pièce en laissant des traînées de suie.
Il faudrait probablement le réparer, sinon le remplacer. La chambre du capitaine avait également souffert. Les coffres d'ambre avaient versé. Un flacon de parfum s'était brisé et la pièce empestait le lilas. Aux yeux d'Althea, l'avenir prit soudain réalité.
Ambre devrait déménager d'ici et loger dans la modeste cabine qui convenait aux charpentiers de navire. Alors, Brachen pourrait s'y installer.
Elle avait accepté à contre-cœur qu'il commandât le navire. Elle était en désaccord avec ses arguments. Ses raisons à elle étaient d'ordre plus personnel. Quand il récupérerait Vivacia, il faudrait qu'elle soit en mesure de quitter le pont de Parangon et de prendre le commandement de sa vive nef. Celui qui naviguait en tant que capitaine sur le Parangon devrait effectuer avec lui le voyage de retour pour éviter qu'une désertion ne trouble davantage un navire déjà bien instable. Il fallait donc que ce soit Brachen. Elle ressentit néanmoins une pointe de regret en refermant la porte. Parangon avait été construit à l'ancienne. La chambre du capitaine était de loin la plus belle du navire. Ambre avait accompli une grande besogne pour restaurer la délicate ébénisterie et les encadrements des fenêtres. Un morceau de tapis recouvrait la fâcheuse trappe qu'elle avait découpée pour communiquer avec la cale. Les vitraux des fenêtres étaient craquelés et quelques fragments manquaient, mais c'était un détail mineur. Leur argent servirait d'abord à régler les réparations de première nécessité. Elle gagna la chambre du second qui allait être la sienne. Beaucoup plus exiguë que celle du capitaine, elle demeurait grandiose comparée au logement de l'équipage. Elle disposait d'une couchette, d'un bureau à cylindres et de deux placards. Une troisième chambre, pas plus grande qu'un cabinet, était destinée au lieutenant. Les logements de l'équipage se réduisaient pratiquement à des hamacs qu'on accrochait dans le gaillard d'avant. Les anciennes vives-nefs ne prenaient pas le confort de l'équipage en considération. Priorité était donnée à la cargaison. Quand Althea revint sur le pont, elle trouva Brachen qui faisait les 100 pas, agité mais triomphant. Et il se tourna aussitôt vers elle.
« On se maintient. On embarque encore de l'eau, mais deux hommes suffisent à la pomper. Je crois que demain matin, il sera complètement resserré. On a un peu de gîte, mais un lest convenable devrait pouvoir la corriger. »
Sur son visage, elle remarqua un éclat qu'elle ne lui avait pas vu depuis qu'il avait quitté la Vivacia, où il naviguait sous les ordres des Frontvestrit. Son pas était vif.
« Rien à céder, rien à sauter. C'est presque trop beau pour être vrai. Je savais que les vives-nefs étaient coriaces, mais à ce point-là, n'importe quel autre navire à l'échouage pendant 30 ans serait pourri et tout juste bon à faire du petit bois. »
Sa joie exubérante était contagieuse. Elle le suivit alors qu'il arpentait le navire, s'arrêtant pour secouer une filière afin de vérifier si elle avait du jeu pour ouvrir et refermer une écoutille afin de s'assurer qu'elle était bien d'équerre. Il y avait encore beaucoup de besogne à faire sur le Parangon, mais il s'agirait plus de réparation que de réfection.
« On va rester un moment sur la barge pour laisser le bois gonfler, puis on l'emmènera au môle ouest pour terminer. »
« Avec les autres vives nefs ?» demanda Althea mal à l'aise.
Brachen fit volte-face d'un mouvement presque provoquant. « Et où sinon ? C'est bien une vive nef.
Je m'inquiète de ce qu'elle pourrait lui dire, » répondit-elle tout aussi vivement. « J'ai peur qu'une remarque maladroite ne déclenche chez lui une de ses rages folles. »
« Althea, plus tôt nous affronterons le problème, mieux ce sera. »
Il s'approcha d'elle, et l'espace d'un instant, elle crut qu'il allait lui prendre le bras. Mais il lui fit signe de l'accompagner tandis qu'il se dirigeait à grandes enjambées vers la figure de proue.
« Je pense qu'on devrait le plonger sans attendre dans la vie normale. Le traiter comme n'importe quelle vive nef pour observer ses réactions. » Plus on le ménagera, plus il se montrera tyrannique.
Vous croyez vraiment que ce sera aussi simple? Si on se met à le traiter normalement, il va se conduire normalement?
Brachen lui répliqua avec un sourire épanoui. Non, bien sûr que non. Mais on va commencer par là et espérer.
Elle se surprit à lui retourner son sourire. Quelque chose en elle réagissait à sa présence à un niveau inaccessible à l'entendement. C'était une attirance qu'elle ne pouvait raisonner. Elle savait seulement que c'était un plaisir de le voir bouger et parler comme autrefois. Le gredin amer et cynique que Kyle Havre et Torg avaient créé avait disparu. Il était redevenu le second d'Efron Vestrit. Elle le suivit jusqu'à la liste de proue. Il se pencha.
« Parangon, ça y est, mon vieux. T'es à flot. Ils ne vont pas en revenir. Ils n'ont qu'à bien se tenir. »
La figure de proue fit comme si elle n'avait pas entendu. Brashen eut un petit haussement d'épaule et leva un sourcil vers Althea. L'attitude de Parangon ne parut pourtant pas le décourager. Adossé à la lisse, il promena son regard sur la forêt de mâts qui peuplait le port de Terrilville. Une expression lointaine passa sur son visage.
« Tu m'en veux pour tout ça ?»
demanda-t-il brusquement. D'abord, elle crut qu'il s'adressait au navire. Mais il lui lança un coup d'œil interrogateur. « De quoi ?» Il lui fit face et déclara avec cette franchise bourrue qu'elle se rappelait si bien
« D'être là, alors que je ne l'aurais jamais cru. D'être sur mon propre pont, capitaine Trell, de la vive nef Parangon. De me trouver là où vous auriez aimé vous trouver vous-même. »
En dépit des efforts qu'il faisait pour être grave, un sourire s'épanouit sur son visage. Quelque chose dans ce sourire fit monter les larmes aux yeux d'Althea. Elle se tourna vivement pour regarder l'eau de peur qu'il ne s'en aperçoive. Avec quelle avidité avait-il attendu ce moment, et depuis combien de temps ?
« Je ne vous en veux pas de ça, »
dit-elle à mi-voix. C'était la vérité. Elle en prit soudain conscience. Elle fut surprise de constater qu'il n'y avait pas en elle une once d'envie. Au contraire, elle éprouvait une joie croissante à assister à son triomphe. Elle agrippa la lisse.
« Vous êtes à votre place ici, et lui aussi. Après toutes ces années, il est en de bonnes mains.
« Comment pourrais-je être jalouse ?» Elle lui jeta un coup d'œil furtif. Le vent jouait dans ses cheveux bruns. Ses traits burinés auraient pu appartenir à une figure de proue. « Je crois que mon père vous aurait donné l'accolade et vous aurait félicité. Il vous aurait averti, comme je le fais maintenant, que quand j'aurais retrouvé ma vivacia, vous ne nous arriverez pas à la cheville. » Elle lui sourit sans la moindre réserve.
Parangon les avait entendus arriver. Ils savaient qu'ils parlaient de lui. Jacasserie sans fin. Ils étaient tous pareils. Ils préféraient parler de lui plutôt que s'adresser à lui. Ils le prenaient pour un idiot. Ils jugeaient sans doute inutile de lui parler de quoi que ce soit. Alors il ne se sentait pas le moins du monde indiscret en tendant l'oreille.
Maintenant qu'il était à nouveau entouré d'eau saline, il les percevait avec davantage de netteté. Non seulement leurs paroles, mais aussi leurs émotions lui parvenaient plus distinctement. Il oublia son irritation dans un bref instant d'émerveillement. Oui, il pouvait les sentir beaucoup plus clairement désormais, presque aussi clairement que s'il s'était agi de membres de sa famille. Il se tendit vers eux avec circonspection. Il ne voulait pas qu'ils s'aperçoivent de sa présence. Pas encore. Leurs émotions étaient fortes. Brashen était grisé par son triomphe. Althea y prenait part. Il y avait quelque chose d'autre aussi. Quelque chose d'autre qui passait entre eux. Ils n'avaient pas de mots pour le qualifier. D'une certaine façon, c'était comme l'eau salée qui s'infiltrait dans son bordage de bois sorcier. Les choses reprenaient leur vraie place. Les lignes qui avaient été faussées retrouvaient leur aplomb. Il sentait le même ajustement entre Brashen et Althea. La tension qui existait entre eux, il l'acceptait. Elle faisait contrepoids au bien-être qu'ils éprouvaient tous deux. Il s'appliqua à trouver une analogie. Comme le vent dans ses voiles. Sans la force qui gonflait la toile, il ne pouvait avancer. Cette tension-là n'était pas à éviter. Au contraire, il fallait la rechercher, comme il le faisait. Il se rendit compte de leur proximité seulement lorsque Brashen se pencha par-dessus la lisse pour lui parler. Il avait été si conscient de leur présence qu'il n'avait pas remarqué leur approche physique. Eh bien, il n'était pas prêt à leur répondre. Alors, Althea se pencha à son tour. Les émotions envahirent Parangon. De Brashen à Althea, d'Althea à Brashen, qui l'incluait, lui, Parangon. L'orgueil dans la voix de Brashen n'était pas fin. « Capitaine Brashen Trell, de la vive nef Parangon !» Les mots tambourinèrent à travers tout le navire. C'était plus que de l'orgueil. C'était de la tendresse. Un sentiment de possession. Brashen avait ardemment désiré le faire sien. Pas seulement pour le sauver, ni parce qu'il ne valait pas cher et qu'il était disponible. Il voulait être le capitaine de la vive nef Parangon. Tout étonné, il sentait qu'Althea faisait écho à ses émotions. Tous deux jugeaient vraiment qu'il était à sa place. Quelque chose s'ouvrit en lui qui avait été longtemps muré. La conscience de sa propre valeur pétilla comme une petite étincelle dans les ténèbres.
« Ne t'y fie pas, Vestrit, » dit-il à mi-voix.
Il sourit franchement quand il les sentit tous deux sursauter puis se pencher pour essayer de discerner son visage. Il avait toujours les bras croisés, mais il plongea son menton barbu dans sa poitrine, très satisfait de lui-même.
« Libre à toi de penser qu'avec Vivacia, vous pouvez nous faire honte. Mais Trell et moi, on est loin d'avoir dit notre dernier mot. Tu n'as encore rien vu. »